tous les vendredis de 18h à 19h30, Studio Sport sur Demoiselle avec l'âtre Royan et Jotul Vaux-sur-Mer, spécialiste des poils et cheminées scandinaves. Toute l'actualité sportive du département, interviews, résultats et événements animés par Patrick Adrien Sens et Stéphane Boisson.
18h04, il est là. C'est la dernière ce soir.
C'est la dernière de la saison.
De la saison, bien sûr.
De la saison 2025-2026. On se retrouve ensuite fin ou début septembre. Ben oui, on aurait pu continuer si nos amis du Stade Rochelet avaient continué leur route. Mais bon, ben là, malheureusement, ça s'est terminé la semaine dernière. On en reparlera justement dans la dernière partie de l'émission avec Jean-Michel Blaiseau. On parlera également tennis avec le tournoi du Garden dont la finale aura lieu demain. On parlera également triathlon avec le triathlon de La Palmyre qui va se dérouler donc dimanche matin, qui pour l'instant n'est pas annulé. Et les coureurs partiront à 7h du matin, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont souffrir. Et on parlera également cyclisme, voilà le programme. Mais pour l'instant, eh bien, on retrouve donc pour la dernière de la saison Laurent Michaud qui commence à suer à grosses gouttes du côté de Sainte. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. Oui, en effet, ça commence à monter sévère.
Voilà. Bon, après, il y a une solution. Vous pouvez aller faire trempette dans la Charente.
Ah oui, c'est sûr, ça rafraîchit.
Hein. C'est pas impossible qu'il y en ait. Hein. Il y aura peut-être des.
Oui.
Il y aura des candidats, hein, effectivement.
Oui, c'est sûr. Oui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se baigner ce week-end. Oui.
Alors, justement, puisque cette chaleur, cette canicule qui nous tombe dessus là est d'actualité. Bah, du coup, effectivement, il y a différentes annulations et c'est le cas sur Sainte. Il y a au moins deux manifestations. Station annulée. Hein.
Oui, en effet, il devait y avoir une journée portes ouvertes au BMX donc demain qui est reportée à samedi prochain.
Ouais.
S'il fait moins chaud, mais on verra ça.
Normalement, il fera moins chaud, oui.
Voilà. Et puis au Gond, le village olympique et paralympique devait venir pareil demain et c'est reporté à une date ultérieure. Donc ça fait déjà deux événements. Et puis j'ai un doute sur. Je vais en parler tout de suite sur le foot. Il devait y avoir demain donc la première édition d'un tournoi féminin pour les jeunes U14, U16. Hein, avec notamment, on se rappelle, nos vainqueurs de la Coupe Nouvelle-Aquitaine.
Et oui.
Notamment un gros plateau hein, avec des équipes comme Girondins de Bordeaux, Chamois-Niorté, Brive, Soyons-Angoulême, évidemment, un grand club féminin. Donc je n'ai pas eu d'information que c'est annulé, mais bon, a priori, c'est maintenu. Mais on verra si ça va se passer.
Alors.
Et puis, puisque je parle foot, il y a une bonne nouvelle pour un éducateur des U15 et Reims. C'est Vincent Chollet qui vient d'obtenir son BEF, le brevet d'entraîneur de football. C'est toujours intéressant s'il veut poursuivre sa carrière en tant qu'entraîneur.
Oui, et puis alors, on revient effectivement à ces jeunes, un tournoi U14, U16.
Oui.
Alors, normalement, demain, c'est demain, hein, c'est bien ça, Laurent, vous nous avez dit.
Voilà. Oui.
Bon, demain, il va faire chaud, certes, mais on sait que l'énorme pic va être surtout sur dimanche et lundi, et puis la semaine prochaine. Donc, demain, ça devrait aller à peu près, mais c'est vrai qu'il faudra, au niveau des organisateurs, mais je pense que là, ils ont fait le nécessaire, faudra être particulièrement vigilant pour hydrater nos jeunes.
Oui.
Parce que même s'il y a des grands clubs, hein, effectivement, vous l'annonciez, les Girondins de Bordeaux et autres, ils savent pas forcément encore tout à fait très bien gérer leur
leur
forme physique en fonction de la chaleur, leur organisme. Voilà, excusez-moi, je cherchais mes mots.
D'accord. Hein.
Et donc, c'est vrai qu'il faut faire attention. Hein. C'est pas les athlètes de haut niveau, eux savent faire, ils se connaissent par cœur. Et encore, on peut avoir effectivement, même chez les athlètes de haut niveau, on peut avoir des malaises. Effectivement, voilà, faut mieux être prudent.
Hein. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, il y a eu. Alors, pour revenir à l'actualité, on va dire du sport, il y en a un tout petit peu.
Oui.
D'abord, samedi dernier, c'était la finale des championnats Excellence région Nouvelle-Aquitaine pour les U17 garçons. Ça se passait à Aigre en Charente. Ils affrontaient Saint-Médard-Angeal, l'équipe girondine. Et puis malheureusement nos jeunes se sont inclinés d'un but 35 à 34 dans les ultimes secondes, sachant qu'ils avaient dominé au score tout le match. Donc voilà, c'est un petit peu frustrant évidemment. C'est un peu dur à encaisser, mais bon, ils sont quand même vice-champions région Excellence hein, pour les U17 garçons. Et ce week-end, dimanche, alors là on verra aussi comment ça va se passer, mais bon, c'est dans une salle. Ce sont les U15 garçons, cette fois, qui disputent les finales de leur championnat. Ça se passe dans le 87 à Isle-sur-Vienne, si je ne m'abuse. Donc ils disputent le matin deux matchs de poule face à Pau-Bière et à Niort. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il faut être premier de sa poule de 3 ? C'est possible, on verra ça. Bon, ça fait quand même deux belles saisons, en tout cas pour les U15 et U17 garçons en hand. Et on sait bien que de nombreuses équipes jeunes ont fait une aussi une belle saison. Je pense notamment au basket, je vous en ai parlé.
Et j'allais vous le dire, oui, c'est une ben saison oui. de folie là-bas.
Ouais, c'est ça, avec donc 3 titres de mémoire. Et puis le week-end dernier, il y avait un tournoi 3-3 à Cognac, en Charente. 4 équipes synthèses étaient présentes, les U13 garçons, U15 garçons, et les seniors garçons et filles, et les jeunes encore une fois, les U13 et U15, ont remporté ce tournoi 3-3 à Cognac. Donc voilà, il clôture de bien belle manière cette belle saison du côté des jeunes du basket.
Eh bien, merci beaucoup, Laurent. Alors, on a encore quelques secondes devant oui. nous. On va faire la liaison avec le début, on va dire, de la saison 2026-2027 du côté de Saintes. Alors, pendant l'été, il n'y aura pas énormément d'événements sportifs.
Un peu de cyclisme.
Voilà. Justement, j'en profite puisque dans quelques instants, nous accueillerons dans les studios, eh bien, le président du Vélo Club de Rochefort qui a fait une superbe perf qui s'est imposé aux 24 heures du Mans cycliste. Pas contre les voitures, hein, parce que ça aurait été un peu compliqué. Hein.
C'est compliqué.
Voilà. Et ben oui, c'est que donc, durant le mois d'août, il y aura effectivement une nouvelle édition du souvenir Marcel Bergerot, hein, organisé par le BSCO, le Bordeaux Saintes Cycliste Organisation. Ça sera un des événements sportifs majeurs de l'été sur Saintes avant de retrouver le début de la saison.
D'accord. Si, puisque vous parlez de la saison prochaine, s'il me reste encore quelques secondes, je peux annoncer l'arrivée d'un rugbyman. Pour la saison prochaine, un pilier de 24 ans,
oui.
Al-Amin Souleymana, et qui a un gros, joli parcours, hein, puisqu'il arrive de l'UBJ en Fédéral 1, et après avoir passé 4 ans à Cognac en Espoir National 2. Donc je pense que c'est peut-être l'une des meilleures recrues là, pour la saison prochaine en rugby.
Ah oui, surtout pour évoluer en Fédéral 3, c'est clair que oui, ça va faire énormément bien à nos rugbymen synthé. Hein.
Oui, c'est un beau bébé, évidemment.
J'imagine. Je fais juste un petit retour en arrière. On parlait vélo, et justement, puisque Ludovic Brévadi est dans les studios. Bonsoir Ludo.
Bonsoir Patrick.
Petite précision non, sur le au niveau cyclisme.
Il y a aussi le Tour de Charente-Maritime féminin. Alors,
il y aura le Tour de Charente-Maritime féminin.
Partir et arriver de Saintes.
Exact. Oui, il y a du cyclisme. Ouais. Cet été.
Et ça sera le premier week-end du mois d'août, voilà.
Oui, c'est ça, début août.
Avec de belles, de belles équipes, de très belles équipes nationales présentes sur place.
D'accord.
Merci beaucoup, Laurent. Eh ben,
Je vous
souhaite de bonnes vacances.
Et bien vous aussi, à tout le monde.
Et on se retrouve au mois de septembre, voilà.
Oui, c'est ça. Bon été à tout le monde.
Bon été à vous aussi. 18h11 sur l'antenne de Demoiselle. Dans quelques instants, le journal présenté par Emmanuel Bidot. Nous, on se retrouve à 18h30. À tout à l'heure.
Tous les vendredis de 18h à 19h30, Studio Sport sur Demoiselle avec l'âtre Royan et Jotul Vaux-sur-Mer, spécialiste des poêles et cheminées scandinaves. Toute l'actualité sportive du département, interviews, résultats et événements animés par Patrick Adrien Sens et Stéphane Boisson.
Et c'est parti pour la deuxième mi-temps, comme on dit d'habitude avec Pierre, hein, pour cette émission Studio Sport. C'est la dernière de la saison 2025-2026 et avec beaucoup de choses justement au programme. Et on commence tout de suite en filant directement à Royan au Garden Tennis, où se déroule depuis le week-end dernier un tournoi donc ATP 50. Pour nous en parler, donc l'organisateur Yann Maître. Bonsoir Yann.
Bonsoir.
Alors Yann, déjà, alors première question, comment ça se passe là-bas du côté du Garden avec les prévisions météo, parce que la finale c'est demain. L'année dernière il avait fait très chaud, mais là ça risque d'être pire encore demain.
Hein. Eh ben c'est rebelote en fait, on va vivre le même scénario que l'an passé. Les parasols sont installés pour accueillir le public à l'ombre, parce qu'effectivement nous, je pense que nous allons vivre à 14h30 demain une finale sous la forte chaleur.
Alors comment s'est déroulée cette semaine, j'imagine, assez montée crescendo, on a vu les articles dans la presse, avec des surprises aussi.
Alors effectivement, on a commencé un peu dans une situation catastrophe, avec une énorme problématique de terrain, de ligne notamment, qui nous a obligés de réorganiser un peu les terrains de compétition. Et puis, ça ne nous a pas empêché de jouer malgré tout. On est revenu sur nos terrains de match, parce qu'on a une entreprise qui a travaillé plusieurs nuits d'affilée pour pouvoir livrer les terrains dans les temps. Et effectivement, le tableau a suivi son cours. Les matchs se sont enchaînés. On a vécu des scénarios assez incroyables, avec comme Roland de Ravel, on en reparlera tout à l'heure, je pense. Mmh. Et voilà, et beaucoup de jeunes qui jouaient et des matchs assez intenses.
Alors, justement, ce petit problème technique avec les lignes, parce que ça, bien sûr, c'est important en tennis. Hein, si les joueurs ne voient pas les lignes, c'est un petit peu compliqué, également pour les arbitres. Donc, ça veut dire que les terrains, les lignes n'étaient pas parfaitement bien balisées.
En fait, la terre battue, c'est une surface assez noble, mais ce sont des terrains qui se refont tous les ans, et le prestataire a eu un problème technique sur ces lignes, en fait. Mmh. On a dû les refaire. Sauf que on était dans une situation qui était une situation vraiment d'urgence. Mmh. Et bien en fait l'huile de lin que l'on passe n'avait pas le temps de sécher suffisamment avec le nombre de matchs qu'il y avait. Oui. Pour pouvoir être peint derrière.
D'accord.
Donc en fait c'est ce double combo séchage de l'huile puis peinture et séchage de cette même peinture qui nous posait des problèmes.
Alors du coup vous vous êtes réorganisé de quelle façon?
Bah, on a chance d'avoir 11 terrains, donc en fait on a délocalisé les terrains de match en terrain d'entraînement et inversement. Donc on a pu de cette façon-là assurer l'intégralité des matchs depuis le départ. Mmh. Et depuis jeudi, en fait, nous avons réintégré nos terrains principaux de match tels qu'ils étaient prévus au départ.
Alors tout ça est rentré donc dans l'ordre, et puis aussi vous vous êtes organisé de façon à ce qu'il y ait toujours au moins un match le soir pour permettre au public, tout simplement des gens comme vous et moi qui sortent du travail et qui peuvent venir faire un détour au Garden pour voir les joueurs.
Exactement, le match du jour c'est 18h, là c'est en cours, hein, dans un dernier match de double ce soir, donc on a réussi à maintenir cela pour le public. Dans des conditions effectivement où on ne pouvait pas jouer sur le central, donc des conditions d'assises qui étaient vraiment pas optimales. On a eu un petit peu moins du coup de fréquentation malheureusement à cause de ça, doublé des chaleurs. Mmh. Bon, ça ne nous a pas empêché de maintenir notre programme tel que prévu et tel qu'on l'avait imaginé initialement.
Alors on va revenir justement à la compétition en elle-même. Demain c'est la finale. Où on en est là ce soir au moment où on se parle?
Eh bien écoutez, les deux finalistes sont connus, ça y est. On aura une finale franco-espagnole. Un jeune espagnol qui est 272e mondial, qui est un vrai spécialiste de terre battue, un vrai terrien, face à la belle histoire, à la surprise absolument incroyable française, comme Roland de Ravel, un jeune joueur qui rentre des États-Unis et qui nous aura traversé ce tableau depuis les qualifications et voilà, qui est encore en course pour demain.
Alors ça nous promet donc une magnifique finale.
Alors complètement, opposition de style parfaite, un Espagnol véritable spécialiste de la terre battue, gros défenseur, très gros contreur, qui se déplace excessivement bien, qui a une vraie science de la glisse, face à Combes, qui lui est un joueur très agressif, très puissant, hein, les services dépassent allègrement les 210 km/h, et qui va chercher les points à la volée, qui est tout en puissance. Et je pense que ce sera un excellent match, une opposition de style assez exceptionnelle.
Alors, faut dire aussi que pour ce qui est de la terre battue, de manière générale, les joueurs espagnols, ils maîtrisent très très bien cette surface.
Hein. Oh bah complètement. On a beau effectivement avoir Roland Garros, les Espagnols sont les spécialistes incontestés de la terre battue. Il n'y a pas eu que Nadal effectivement dans les joueurs espagnols. Et là, on avait une belle armada espagnole. On en a encore un bel exemple, un jeune joueur de 20 ans qui lui est en finale.
Alors on revient aussi au fait que l'entrée, hein, vous nous avez dit dans la semaine, on pourra pas forcément faire ça à vitam aeternam, mais pour l'instant l'entrée du tournoi est gratuite au Garden, et du coup ça vous a amené quand même beaucoup de monde encore une fois.
Oui, complètement. C'est vraiment une volonté. Tant qu'on a cette capacité effectivement financière et tant qu'on l'aura à pouvoir attirer le public gratuitement, on le fera. Voilà, l'idée c'est quand même que l'argent ne soit pas un frein, le prix ne soit pas un frein à venir voir du beau spectacle sur Royan. Et donc voilà, on souhaite s'y tenir. Ça reste un challenge perpétuel pour nous. Mais voilà, on reste et on demeure le challenger, l'unique challenger en France dont l'entrée est totalement gratuite de bout en bout, y compris fin de la finale.
Alors, on rappelle, donc ce tournoi est ATP 50, donc il rapporte 50 points au vainqueur pour ensuite profiter de ces points et pouvoir participer à des tournois encore plus importants. Vous avez quelques nouvelles des joueurs qui étaient là l'an dernier pour la première édition, et où en sont-ils dans leur carrière?
Ouais, on peut prendre deux exemples. Hein. Tito Androgué, notre vainqueur de l'an passé, hein, qui était à Roland-Garros, qui est aujourd'hui aux portes du top 100 mondial. Et puis un jeune espagnol, Daniel Mérida, qui n'avait fait que, j'allais dire, quart de finale l'an passé, qui est 84e aujourd'hui, hein, donc lui il est dans les grands flemmes maintenant, on le reverra plus jamais. Oui. Ça c'est certain. Donc voilà, on demeure une passerelle en fait pour des joueurs qui sont en devenir, qui sont aux portes, hein, de ce top 100 qui est vraiment le sésame pour pouvoir aller jouer tous les grands flemmes, les Masters 1500, etc. Donc voilà, on a des joueurs et on en aura d'autres. qui performeront forcément après et qu'on le reverra à la télé.
Oui, alors du coup, bah, ce tournoi du Garden va devenir une référence quand on va se quitter dans quelques instants. Yann, j'ai un autre invité, lui c'est pour le sport cycliste. On va faire une référence dans la région. Dans la région, il y a une classique cycliste qui s'appelle Bordeaux-Saintes qui existe depuis plus de 80 ans. Et quand on regarde le palmarès, eh bien bon nombre de coureurs qui se sont imposés à Saintes ont ensuite fait des carrières professionnelles et pas des moindres. Ça va peut-être être la même chose pour le Garden en tennis.
Ah, complètement, hein. Si on remonte le temps, puisque le Garden a accueilli trois tournois ATP en 79, 80 et 81, Henri Lecomte est venu, Mats Wilander est venu, donc vous voyez, c'est typiquement le genre de tournoi qui sont les tremplins avec les futurs champions, les grands noms de demain.
Eh bien, en tout cas, on donne rendez-vous à tout le public, à tous les passionnés de tennis et de sport en général, pour venir au Garden donc demain après-midi. Coup d'envoi donc de cette finale, à quelle heure, Yann, on le rappelle ?
Eh bien, 14h30 pour cette finale de simple, la finale de double ayant lieu fin de matinée à 11h30.
Eh bien, merci beaucoup, Yann, de nous avoir accordé ces quelques minutes. On vous laisse retourner sur le bord des cours, parce que je pense que vous avez encore beaucoup de travail jusqu'à ce soir.
Tout à fait. On a encore un match qui est en train de se terminer, mais nous sommes tous à la tâche.
Merci beaucoup, Yann, et à très bientôt.
Merci.
Bonne soirée. 18h41 sur l'antenne de Demoiselle. Eh bien, sans transition, justement, on va passer du tennis au vélo. Il nous a dit quelques mots tout à l'heure. C'est Ludovic Brivadi. Rebonsoir, Ludo.
Bonsoir, Patrick.
Alors, justement, on parlait cyclisme avec Bordeaux-Saintes, hein, une course, bien sûr, que tous les amateurs de la petite reine connaissent très bien dans la région. Mais là, ce soir, vous êtes là, entre autres, pour nous parler de votre performance d'il y a deux semaines. Alors j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, c'était pas les 24 heures du Mans Cycliste, c'était les 24 heures de Nogaro, un autre grand circuit automobile très très connu. Et donc pour la deuxième année, vous vous êtes imposé dans la catégorie solo. Chapeau.
Oui, c'est ça, merci. C'est vrai que c'est la deuxième année consécutive que je participe aux 24 heures de Nogaro. Alors c'est aussi la deuxième année que cette compétition est organisée. C'est organisé par le club de Agen, la section cyclisme du SUA. Sur le circuit Paul Armagnac à Nogaro. Donc on est sur le même principe que les 24 heures du Mans automobile, hein. C'est vous partez en équipage de 1, 2, 3, 4 ou 6. Vous vous relayez comme vous le souhaitez. Et l'objectif est de parcourir la plus grande distance en 24 heures.
Alors vous étiez solo total. Et redonnez-nous la distance que vous avez parcourue en 24 heures.
960 km.
Ça fait une moyenne. J'ai pas fait le.
Ça
le...
fait du 40 à l'heure.
Ça fait du 40 à l'heure pendant 24 heures. C'est incroyable. Et là, c'est pas. Je suis scotché. Hein. Franchement, honnêtement, quand on connaît le vélo, il y a de quoi. Et puis, c'est vraiment du solo. Les anciens connaissent, par exemple, la fameuse classique qui a repris il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Bordeaux-Paris, où là, les coureurs sur la deuxième partie de l'épreuve avaient ce qu'on appelait les entraîneurs, les derniers, c'est-à-dire des espèces de un peu de grosses mobilettes, hein, qui permettaient aux coureurs de se protéger. Alors là, d'avoir effectivement des moyennes importantes. Mais là, non, vous, la seule chose, c'était vous rouliez en peloton avec d'autres coureurs.
Point. Exactement, c'est ça. C'est, vous roulez en peloton, ça va se jouer la course comme une course, on va dire, sur route ou devant, hein, parce que les équipes de 4 et 6 vont vouloir essayer de se prendre des tours mutuellement pour prendre un petit peu d'avance. L'objectif quand on est solo, c'est d'essayer de tenir un maximum les roues. C'est vrai que moi, j'avais fait la stratégie de course, c'était de rouler le plus vite possible. Parce que je viens du monde de course fédérale FFC, c'est mes qualités par rapport à des coureurs qui sont plus habitués à 24 heures cyclistes, qui vont avoir la capacité, eux, de rouler très longtemps en faisant très très peu de pauses.
Mais avec des moyennes plus basses.
Peut-être avec des moyennes plus basses. Donc il y avait cette idée de chercher à accrocher les roues le plus longtemps possible, c'est ce que j'ai fait sur la première partie de course. Ça m'a permis, en fait, à mon premier arrêt, au bout de 7 heures de course, de basculer en fait en étant premier au classement scratch, dans le même temps que le deuxième. Donc c'était une stratégie de course qui était très énergivore en fait, et j'ai pas pu tenir sur toute la durée.
Il y a de quoi. On comprend. Mais alors justement, parce que bon, vous disiez 42 moyenne sur 24 heures, en gros 40-42, vous courez donc comme vous le disiez en Fédération française de cyclisme, vous êtes en catégorie open hein, je crois si j'ai bonne mémoire. Donc 40-42 de moyenne, c'est la moyenne classique qu'on rencontre dans toutes les courses voire même des fois plus,
ça va
même
oui,
des
fois plus. Oui, on est plus ouais, en open 2, on est plus open 1, open 2, élite c'est plus du 43-44.
43-44, mais ça dure bon 2 heures, 3 heures, des fois un peu plus. Mais là c'est sur 24 heures, c'est oui. Le temps doit paraître long quand même par moment, non?
Ah oui, après il faut ça c'est des choses je viens pas c'est de communauté le mode du vélo de on va dire comment ça touche un peu ultra cyclisme, c'est une communauté que je connais pas du tout que
ouais, ouais.
J'ai pu découvrir au travers de quelques articles, quelques personnages qui font ça. Je connaissais pas du tout et je voyais un peu la stratégie qu'ils avaient sur la gestion des courses, c'était de gérer sur des petits temps. Pas de viser en fait son effort sur 24 heures, mais plutôt de se dire au bout d'une heure, au bout de 30 minutes de course, où est-ce que je vais basculer, où est-ce que je vais en être. Et c'est la stratégie aussi que j'avais choisi de prendre pour gérer mon effort, qui permettait finalement d'oublier un peu, de se dire bon.
Oui, parce que si on pense d'entrée de jeu aux 24 heures, mentalement on va pas au bout.
Fini,
quoi.
Oui.
Ouais, ouais.
Après, c'est vrai que ça empêchait pas, on est d'avoir toujours cette horloge dans la tête et d'avoir des gros coups de mou. J'ai eu un très gros coup de mou au moment du lever du jour.
Oui.
Là, c'était à 6h du matin, on lève le jour et vous regardez la montre, elle est 6h.
Il reste 8 heures.
Et je me suis effondré sur le vélo, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors que j'étais en tête dans ma catégorie, j'étais encore dans les premiers au classement scratch. Et ça, psychologiquement, c'était très dur, là, oui.
Et alors, au niveau de l'assistance, ça se passe comment? Parce que vous aviez quand même quelqu'un qui vous aidait. Il y a des gens qui viennent, ne serait-ce que pour quand on s'arrête, le massage ou pour vous préparer tout ce qu'il faut pour boire, pour manger. Comment ça s'est passé pour vous?
Alors, c'est une organisation qui est très très bien parce qu'effectivement, il y a des masseurs qui sont présents, il y a un mécano qui est présent, il y a un ravitaillement. Donc, on peut en profiter de ça. Il y a même derrière, parce que c'est à Nogaro, donc il y a toute la partie pour le village automobile. Donc, il y a aussi la possibilité de prendre des repas et de faire des douches. Donc, il y a des personnes qui ont participé à l'épreuve qui ont profité justement de ces différents services. Dans mon cas, je cherchais à jouer la course, donc je me suis très peu arrêté. Je n'ai pas pu profiter des services. Au niveau de l'assistance, j'étais solo et solo, on va dire, à l'arrache complet.
Ouais, ouais.
Je suis venu sans personne et sans aucune assistance pour le coup. Donc en préparant un peu rapidement mes petits bidons, mes petits ravitaillements avant de partir, je m'arrêtais, je récupérais ça. J'ai un peu profité du ravitaillement qui était offert par l'organisation pour justement remplir les bidons, remanger un peu, remettre un peu de
l'essence dans le moteur
et puis remettre des stocks dans les poches pour se nourrir sur le vélo. Mais c'est vrai que sinon non, j'avais rien. Après, les personnes qui sont habituées, parce que je commence à regarder un peu, il y a effectivement un circuit de coureurs là-dessus. Oui, on vient avec une équipe de il y a une personne sur vélo, mais à terre, il y a souvent deux personnes à terre pour gérer l'assistance.
Alors, juste dernière question, la nuit, parce qu'on pense toujours à les 24 heures obligatoirement, comment ça se passe? Ça doit être une ambiance assez spéciale, non?
C'est formidable.
Ouais.
C'est formidable, parce qu'on rentre un peu dans notre monde, on découvre le circuit différemment, et non, c'est formidable.
Il n'y a pas de bruit?
Il n'y a pas de bruit. Mais en fait, même sur le circuit, c'est extrêmement calme. Hein.
Ouais,
vous imaginez un circuit automobile, ça a vroomé dans tous les sens. Là, c'est que des vélos, vous entendez le bruit des roues qui dans le vent. Et la nuit, c'est encore, je trouve, plus spécial parce que les pelotons sont beaucoup plus clairsemés. On ne voit plus que des lumières. On ne voit plus les coureurs, hein. On ne voit plus que des lumières. Et il y a quelques lumières là qui, vous voyez, des avions qui passent. C'est assez. Là, en plus, on avait une nuit super, très très claire. C'était magnifique.
Alors, deux fois vainqueur, on remet ça l'année prochaine?
Oh, je suis pas sûr. Mentalement, c'est très très exigeant.
Ouais.
Physiquement aussi, j'étais malade après, j'ai le corps qui avait vraiment pris. Je sais pas.
Faudra vous reposer la question dans quelques mois peut-être.
Après, c'est vrai que là, on m'a parlé de la barre des 1000 km.
Ouais.
Je sais pas. C'est quand même 2 km/h sur la moyenne horaire, c'est gigantesque.
C'est gigantesque, quoi. Ouais. Avant de se quitter, on va parler d'un événement Rocheforté, puisque vous êtes, on le rappelle, le président du vélo club de Rochefort. C'est le 10 juillet prochain.
Oui, d'habitude, je suis plus ici pour parler des activités du club. Le 10 juillet prochain, il y a une kermesse qui arrive vers Bordeaux. Je crois que c'est le Tour de France, mais ça, c'est une petite kermesse cycliste. Non, le vrai événement cycliste en Nouvelle-Aquitaine.
Ça sera à Rochefort.
C'est à Rochefort. C'est le prix Les Chauguettes. C'est la course semi-nocturne en centre-ville de Rochefort sur un circuit très très court, 550 mètres. C'est une piste. Ça va rouler très vite. Vous allez voir les coureurs toutes les 40 secondes. C'est en semi-nocturne, on part à 20h, on arrive 21h30 parce qu'il y aura 100 tours à parcourir.
Et combien de coureurs au départ à peu près?
On a limité à 40 parce que c'est un circuit très court.
Très court, oui, oui.
Donc il faut que les arbitres puissent se gérer. Après, il peut y avoir des groupes dans tous les sens. Là, ça va être pour les deuxièmes catégories. Donc j'aurai la chance de participer enfin à cette épreuve. Ça fait 10 ans que j'attends de pouvoir recourir les Chauguettes. Donc c'est génial. Je vous invite, c'est un spectacle incroyable. Vous allez au bord du circuit, vous voyez les coureurs 100 fois. Vous pouvez même les voir 200 fois parce que c'est un vrai stade. Vous voyez la place de la poste à Rochefort. Vous pouvez traverser en fait la place.
Tout à fait.
En même temps que les coureurs, donc vous pouvez les voir 200 fois.
Ouais.
Il n'y a pas beaucoup de compétitions cyclistes où sur une course, vous voyez les coureurs 200 fois.
Et en plus, si vous avez soif sur le parcours, il doit y avoir au moins 2 ou 3 bars. Hein, donc vous pouvez profiter, vous mettre sur une chaise et regarder.
On aura une belle buvette au Vélo Club Rochefort.
Voilà, exactement. Merci beaucoup Ludovic.
Merci Patrick.
Donc rendez-vous le 10 juillet prochain pour cette nouvelle édition du Grand Prix des Échauguettes. On continue, ça va toujours aussi vite dans Studio Sport. Autre événement de ce week-end, ce sera donc dimanche, la première édition du triathlon de la Palmyre. Alors en fin de compte, ça commence dès ce soir, hein, puisque ce soir il y a 2 épreuves de course à pied. C'est le Palmyre Run, ensuite il y aura le Palmyre Triathlon. Le Palmyre Run ce soir, bien, c'est pour ceux qui ont envie de courir entre amis sur des distances relativement courtes. D'ailleurs, tiens, pour l'année prochaine, Cyril, si ça vous intéresse, vous pourrez être au départ, hein, puisqu'il y aura il y a 2 distances, donc sur 5 et sur 10 kilomètres. Demain, là, on passera véritablement au triathlon avec le triathlon Kids. Donc ça, c'est pour les tout jeunes, hein, jusqu'à 13 ans, je crois, de mémoire. Et puis également, donc la formule XS, qui est la formule courte, hein, pour un petit peu la formule découverte, pour ceux qui veulent voir, se rendre compte qu'est-ce que c'est que d'enchaîner la natation, le vélo et la course à pied. Et puis dimanche, à partir de 7h, les 2 distances reines, entre guillemets, le format M et le format L. Au total, 2500 personnes vont participer à cette manifestation durant les 3 jours. On écoute donc Patrick Underwood, l'organisateur, qui a monté avec toute son équipe de copains. C'est parti, le club de la Palmyre est parti comme ça, un petit peu d'un défi entre potes qui aiment le triathlon, qui ont créé un club, et puis après ils se sont dit pourquoi pas organiser nous-mêmes une manifestation. Donc il nous parle de tout ça. On écoute Patrick Underwood.
Oui, c'est ça. Bonjour. Donc oui, c'est ça. C'est organisé par le Palmyre Triathlon Club, donc qui a été créé en 2024 de base par un groupe d'amis à force de s'entraîner à la Palmyre, a décidé de créer un club, donc qui grandit petit à petit, et puis à force de s'entraîner justement dans ce cadre qui est quand même assez exceptionnel à la Palmyre au mat. Donc c'est de là qui est venue l'idée de créer le Palmyre Triathlon et donc le Palmyre. Oui, ça va vite. Après, il y avait toujours l'idée à terme de créer quelque chose sur la Palmyre. Donc oui, ça va vite, mais on a des personnes du club qui sont très expérimentées dans le domaine du triathlon et dans le domaine de l'événementiel. Donc voilà, c'était toujours une perspective de créer un événement, et puis effectivement, c'est venu assez rapidement. C'est ça. Donc le Palmyre Triathlon, c'est sur 2 jours, donc le samedi et le dimanche. Avec pour commencer le triathlon XS, donc pour celles et ceux qui se lancent dans la discipline du triathlon, qui sera suivi donc du triathlon Kids, donc ça c'est accessible pour les plus jeunes, donc à partir de 6 ans jusqu'à l'âge de 13 ans. Et donc dimanche, on a les épreuves phares du Palmyre Triathlon, qui sont les triathlons M et L, donc les triathlons plus longue distance.
Alors au niveau des parcours, par où vont passer ces différentes épreuves?
Alors les différentes épreuves traversent la Palmyre et vont jusqu'à Ronces-les-Bains, donc passent aussi dans la commune de La Tremblade. Donc chaque passage en course à pied, par exemple, se déroule en front de mer, donc aux côtés de la plage de la Palmyre. Et donc la partie natation sera en partie dans la baie de Bonance, donc toujours sur la plage de la Palmyre. Et puis justement le parcours vélo, c'est celui-là qui va jusqu'à la Tremblade, jusqu'à Ronces-les-Bains, donc qui longe la D25 avec des vues assez imprenables sur la côte atlantique, avant de faire demi-tour et revenir sur la Palmyre. Donc voilà, ça fait le tour de la Palmyre et jusqu'à la Tremblade, jusqu'à Ronces-les-Bains et la commune de la Tremblade.
Alors pour le Alors, parlez-nous un petit peu des favoris, parce que je crois qu'il y a quand même un très très bon plateau, aussi bien chez les dames que chez les garçons. Donc, vous avez des noms déjà un petit peu de triathlètes à surveiller.
Ouais, bien sûr. Donc, on a forcément Manon Genet qui sera présent sur l'événement et qui est très grande favorite sur le triathlon L. Alexandre Caille aussi, qui vient juste de remporter l'Ironman de Tours le week-end dernier. On a Nathan Menant aussi, Tom Zieba, Alexandre Delahaye. Donc voilà, il y a pas mal de noms en tête. Sur le triathlon M, on a Léo Stark, Casimir Moine. Voilà, il y a des très grands noms. On a aussi Shema Biar. Voilà, il y a chez les hommes comme chez les femmes, on a des très gros noms sur les épreuves, notamment triathlon M et triathlon L. Donc ça va être une belle compétition à suivre.
Alors, ce qui est super, c'est justement d'avoir de tels noms dès la première édition. Vous avez fait une bonne campagne de pub.
Oui, bonne campagne de pub, oui, et je pense aussi, enfin, il y a pas mal de membres, comme j'ai dit au début, hein, du club, qui sont bien ancrés dans le domaine du triathlon, qui ont beaucoup d'expérience et du coup aussi beaucoup de connaissances, qui vient de pair. Donc voilà, il y a beaucoup de connaissances, on a pu emmener du monde à travers ces connaissances-là. Donc il y a aussi ça, donc oui, ça fait plaisir aussi de voir des noms comme ça sur un événement, surtout sur une première édition. Donc voilà, ça va être une belle affaire à suivre. Et puis on espère qu'il y aura aussi du monde en tant que spectateur pour voir ces athlètes sur ces épreuves-là.
Alors, question par rapport à la météo. On annonce un week-end absolument torride. Météo France annonce, je crois, 35 ou 36 degrés dimanche. Et encore, on sait que ce sont des températures sous abri. Ça va être vraiment très très dur pour les concurrents quand on voit les quelques problèmes qu'il y a eu sur le marathon de Royan il y a quelques semaines. Vous risquez d'être dévalisé au niveau des ravitaillements en ligue.
Situation de très près, on a vu ce qui s'est passé sur d'autres événements, d'autres courses à pied, marathon, triathlon aussi ces dernières semaines notamment. Donc voilà, pour nous, la sécurité des participants, ça reste bien entendu une priorité absolue sur notre événement. On travaille en lien avec les autorités compétentes et on a renforcé plusieurs dispositifs justement pour permettre aux athlètes, aux participants, tout au long du week-end de pouvoir pratiquer vraiment dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, on suit la situation de près, on est au courant de ce qui s'est passé sur d'autres événements et donc on travaille de main en main avec les personnes, les autorités, les bénévoles pour justement proposer des éléments adaptés aux participants sur ce week-end.
Voilà, rendez-vous donc dès demain si vous voulez voir les jeunes, si vous voulez vous initier. Et puis donc dimanche à partir de 7h et 7h30 pour le format M et le format L. Sans transition, nous passons au handball. Hier soir, donc le club de Rochefort faisait son assemblée générale de fin de saison. Et à cette occasion, eh bien, nous avons rencontré donc Margot Fayet, qui depuis 4 ans était la présidente du club. Elle a donc mené cette assemblée. Assemblée générale et elle passe la main puisque ce sera la saison prochaine, enfin là dès le mois qu'on dit là, oui, la saison prochaine dès le mois de juillet, c'est Thomas Dupuis, donc joueur de l'équipe senior, qui prendra le relais, mais Margot reste bien sûr au club. On l'écoute, elle nous fait un bilan justement de la saison et puis de ses différentes années de présidente.
Oui, c'est vrai que lors de cette assemblée, ça a été un petit peu beaucoup d'émotions, un mélange de beaucoup d'émotions, parce que c'était la dernière pour moi en tant que présidente. Les licenciés étaient encore une fois très présents et très nombreux. Il y a eu beaucoup de remerciements pour ma part, mais je tiens aussi à beaucoup les remercier parce que sans eux, le club ne pourrait pas vivre, ne pourrait pas se développer. Donc un grand merci surtout à eux.
Alors vous avez connu le club, si j'ai bien compris, tout d'abord, comme on dit, toute gamine en tant que joueuse, et vous êtes devenue présidente. Ça faisait combien de temps là que vous étiez à la tête du club ?
J'étais à la tête du club depuis 2021. Depuis 2021, on a été en coprésidence avec un senior garçon, Camille Gollard, au club, lors de la reprise. Et puis après, il a navigué sur d'autres mères, donc du coup voilà, je suis restée à la tête de cette entreprise et je suis présente officiellement au Polygone depuis l'âge de mes 5 ans, donc je le connais, je commence à le connaître par cœur. Ouais.
Alors quel bilan vous faites de ces 4 ans ?
un bilan de nouvelle dynamique. Il y a eu une nouvelle dynamique, quelque chose qui s'était perdu, quelque chose qu'on n'arrivait plus à retrouver, que moi j'ai connu quand j'étais plus jeune et qu'on a réussi à remettre en place. Voilà, sportivement, les équipes se maintiennent. Au niveau des licenciés, on arrive à se maintenir. Mais cette, ce côté familial qu'on a pu retrouver, c'est, je pense, le plus important pour le club.
Alors, vous avez beaucoup parlé, justement, et insisté sur le rôle des bénévoles au sein du club.
Oui, oui, les bénévoles, c'est vraiment, eux, les piliers. Les piliers dans une association. Sans bénévoles, on ne pourrait rien faire. Sans bénévoles, on ne pourrait pas faire de match. Parce que pour réaliser un match, il faut avoir un arbitre, des joueurs, un encadrant au niveau du coaching et une personne à la table de marque et une personne en salle pour le responsable de salle. Plus, éventuellement, en plus, on peut avoir des personnes à la buvette pour tenir et faire vivre le club. Donc là, lors d'un match, oui, on demande à peu près 6 à 7 bénévoles et sans ces personnes-là, on ne pourrait pas dynamiser et continuer dans cette lancée.
Et comme vous disiez aussi, après, il y a les déplacements, il faut emmener les équipes, aussi bien les seniors que les jeunes.
C'est ça, oui. Les déplacements, on essaye de regrouper les déplacements, mais on fait des appels aux bénévolats, des parents, pour pouvoir accompagner et encourager. Aussi, sur les matchs extérieurs, il est important d'encourager, même si on n'est pas à Rochefort, on peut aller très bien encourager sur les matchs extérieurs.
Au niveau des résultats, il y a eu quand même des bons résultats. Il n'y a pas une coupe aussi qui a été remportée là il y a quelques jours.
Ouais, il y a quelques week-ends. Oui, c'est ça. En fait, on participe au championnat, mais on peut participer à certaines coupes, la Coupe de France et la Coupe départementale. Donc nous, on a participé à la Coupe départementale chez les seniors garçons et chez les seniors filles. Et les filles ont réussi à gagner cette Coupe départementale. Donc on essaiera de faire promouvoir cette coupe et ce titre au sein de la ville et de nos partenaires actuels au club.
Alors les objectifs, on va dire généraux et sportifs pour la saison prochaine, bon, vous passez le relais à un nouveau président, mais je pense que vous savez un petit peu quels sont les objectifs pour la prochaine saison.
Oui, voilà, les objectifs, ils ont été fixés aussi avec l'aide des salariés, parce que voilà, c'est un travail en collaboration entre l'association et le sportif. Donc on a des objectifs de développement, d'implantation un peu plus importante au sein des écoles et des objectifs aussi sportifs pour atteindre un niveau qui peut convenir à nos équipes et au club.
Alors au niveau des seniors, ça serait quoi, on va dire à moyen terme pour les garçons et pour les filles? Vous aimeriez bien que ces deux équipes remontent à quel niveau?
Alors à moyen terme, on souhaiterait que l'équipe senior garçon puisse remonter au niveau pré-national, comme on avait déjà connu au sein du club. Les niveaux au-dessus semblent assez inaccessibles de par pas mal de facteurs autour. Et pour les filles, on souhaite réintégrer le niveau national 3 qu'on a perdu l'année dernière. Donc on a réussi à faire un milieu de saison en prénat, mais on souhaiterait remonter en national 3.
Voilà, c'est tout le mal, comme on dit, que l'on peut souhaiter à ce club de Rochefort, une remontée en National 3 donc pour les dames et en pré-national pour les garçons. Et puis lundi, vous pourrez écouter l'interview de Thomas Dupuis, donc le nouveau président du club de Rochefort. Sans transition, puisqu'il est 19h03 sur l'antenne de Demoiselle, on va terminer par un autre bilan, celui du Stade Rochelet. Les Rochelais donc très sévèrement défaits par le Stade Français en match de barrage la semaine dernière. On le craignait, hein, parce que vraiment on avait en face une équipe parisienne fait de mort de faim. Peut-être que le top 14, les demi-finales, ça commence ce soir, hein, va peut-être nous réserver quelques surprises. En attendant, on fait donc ce dernier bilan de saison avec Jean-Michel Blaiseau. Bonsoir Jean-Michel.
Bonsoir Patrick.
Alors Jean-Michel, on va revenir sur ce match de la semaine dernière, 45-5, ça fait un petit peu mal à la tête. Quelque part, fallait peut-être un petit peu s'y attendre quand même. Hein.
Oui, on peut le dire maintenant, mais à quelques jours auparavant, on espérait, vu les circonstances et la bonne série qu'avait réalisé le Stade Rochelet, on pouvait espérer quand même. Simplement, à un moment donné, la tête est pleine et le réservoir est vide. Donc, on a vu ce que ça donnait. Une domination outrageuse, outrancière des Parisiens, contrairement à ce qui s'était passé la semaine auparavant, même s'il y avait des signaux d'alerte. Et je crois que on n'y était plus ni dans la tête, ni dans les corps. Et voilà ce que ça donne, quoi. Une défaite cuisante et sans appel par une équipe qui a des qualités. Le Stade français a des qualités, c'est indéniable. Et qui même peut-être inquiéter les Montpelliérains et aller jusqu'en finale de ce top 14. Pour ce qui est des Rochelais, bien, on retiendra la belle fin de saison et la belle série de 6 victoires consécutives avec des prestations contre des équipes de très haut niveau. Et voilà, donc pourra repartir positiver là-dessus avec une nouvelle équipe, un nouveau cycle, des nouveaux joueurs en partie et repartir de plus belle vers de nouveaux horizons.
Alors justement, en plus, bon, beaucoup d'émotions parce que là vraiment ça y est, c'est fini. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui quittent le groupe et c'est, comme vous le dites, c'est vraiment une page qui se tourne, hein.
Oui, bien sûr. On savait depuis deux, trois ans, qu'on était dans une période de fin de cycle et qu'il fallait prendre des décisions. Je pense que les décisions ont été prises. J'espère qu'elles révéleront de bons choix. Et il faut repartir en gardant à la fois une attention sur les fondamentaux et sur les valeurs du Stade Rochelais qui sont vraiment des valeurs porteuses, on le voit, et qui rassemblent et fédèrent à la fois une équipe, un club et une population autour.
Alors, à signaler aussi, c'est dans cette période, cette saison très difficile qu'a vécu le club du Stade Rochelais. Il y avait eu énormément de blessés. On va pas revenir là-dessus. Mais ça a permis justement de découvrir des jeunes talents qui se sont véritablement affirmés jusqu'à la fin de la saison.
Oui. On peut le dire. Tout malheur est bon. Voilà. Et ça a permis de révéler à la fois au niveau du club et à la fois à ses joueurs, de leur donner du temps de jeu, ces jeunes, et de se manifester et de s'affirmer et d'entrer dans le cycle de concurrence qui va être nécessaire pour mobiliser les troupes et aller de l'avant. Donc c'est un bienfait quelque part, ça aura eu au moins cette dimension positive, même si on regrette que beaucoup n'aient pas pu s'exprimer tout au long de la saison. Je pense à des joueurs comme Pierre Bourgarit ou Wilkin, le deuxième ligne, Skelton.
Oui, Skelton.
Et Will Skelton et même Paul Boudouin,
oui.
Pierre, qui n'a pas pu donner la pleine mesure de ses formidables moyens. Voilà, et je pense aussi à Danty, le trois quarts centre, que j'espère se rétablira maintenant et remettra les crampons pour s'affirmer.
Alors, il y a aussi des recrues, hein, les noms arrivent hein, dans la presse quand même. On travaille beaucoup au niveau du Stade Rochelais là aussi.
Ah oui, on pointe aussi les zones faibles, comme on dit, parce que en général, et malheureusement, souvent, lorsqu'il y a des lignes un peu faibles, c'est là où arrivent les blessures qui affaiblissent encore plus ces lignes qui sont un peu plus sensibles que d'autres. Donc je pense que devant, surtout, on va certainement densifier le 5 de devant qui est nécessaire. On a vu qu'on avait manqué de puissance et que là, même si on n'y était plus vraiment, mais on a donné des gros signes de faiblesse tant dans les phases de conquête statique, tant à la touche qu'à la mêlée, quoi. On s'est fait bousculer, on s'est fait manger et on s'est fait contrer en touche par une belle équipe dans ce domaine, c'est sûr. Donc on peut pas se contenter d'être vaillant et efficace sur les rocs, sur les phases dynamiques. Il faut aussi assurer les phases statiques comme la mêlée et la touche qui procurent les munitions nécessaires pour que les trois quarts, les lignes arrières s'expriment.
Alors, dernier point, Jean-Michel, pas plus tard que ce matin, figurez-vous que j'ai croisé un fidèle supporter de l'UBB, on a discuté, et bah, eux ont aussi, bon, leur saison qui s'est terminée un week-end plus tôt que le nôtre, bon, mais eux, ils ont leur également, comme La Rochelle, leur deuxième étoile hein, sur le maillot, mais on est venu à parler de la prépa physique, et eux aussi, il y a eu quand même des gros clashs au niveau de l'UBB sur la prépa physique. Qui apparemment casserait aussi beaucoup les joueurs.
Oui, alors là, moi, je ne suis pas spécialiste, donc je ne peux pas trop accuser ou soulever des problèmes qui ne sont pas de mon ressort. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi toutes ces blessures aux ischio-jambiers, lorsque la saison s'avance, peut-être qu'il y a eu des problèmes à pointer sur cette préparation en amont, ce qu'on appelle la préparation dynamique avant saison. Je ne sais pas, c'est difficile pour moi de répondre à ce genre de questions. J'entends. Et je vois que d'autres clubs aussi présentent des symptômes similaires. Donc
oui, on parle de La Rochelle, on parle de l'UBB, mais il y a eu d'autres clubs dans le top 14 hein, également.
Voilà. Donc, affaire à suivre, on va dire. Pour moi, c'est tout ce que je peux dire, affaire à suivre. Et j'espère que ceux qui vont venir remplacer Florian Chiboin, par exemple, dans la prépa, apporteront autre chose et d'autres expériences.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-Michel. On va donc pouvoir tous se reposer un petit peu. Et puis, on se retrouve dès fin août, début septembre pour une nouvelle saison avec beaucoup de plaisir.
Voilà, donc moi je prends le relais, je vais promouvoir les livres sur le Stade Rochelais, sur le port de La Rochelle, mois de juillet et août, au kiosque des écrivains.
Voilà. Eh bien, on vous fera de la publicité, Jean-Michel, pas de souci.
Merci Patrick.
À très bientôt, bonne soirée.
À bientôt.
Il est 19h11 sur l'antenne de Demoiselles, Studio Sport, c'est fini, c'était la dernière de la saison 2025-2026. On aura l'occasion de se retrouver sur d'autres événements sportifs durant l'été et on se retrouvera vraisemblablement premier week-end du septembre. Et puis demain matin, petit dernier rendez-vous, 7h30, 8h30 pour un expresso de l'info sportive. Bon été à tout le monde et rendez-vous au mois de septembre.